On lit pour toi. Aujourd'hui, on lit pour toi
les As de l'info. On veut ton avis. Le voile, l'école et toi. Un texte de l'équipe des As paru le 16 mars 2026 dans les As de l'info. Aujourd'hui, nous aimerions connaître ton opinion à propos d'un sujet délicat qui revient régulièrement dans l'actualité. Le port du voile par les adultes à l'école. Si on t'en parle aujourd'hui, c'est parce que le gouvernement du Québec a adopté une loi qui interdit aux nouveaux employés dans les écoles publiques de porter un signe religieux. Un signe religieux, ce peut être un collier avec une croix pour les chrétiens, un turban pour les sikhs ou une kippa pour les juifs, par exemple. Mais dans l'actualité, il est surtout question du hijab, le nom du voile qui couvre les cheveux portés par les femmes musulmanes. On se concentrera donc sur le voile dans cet article. Les personnes qui ne peuvent pas porter le voile à l'école au Québec, enseignantes, secrétaires, éducatrices spécialisées, employées de la cafétéria, psychologues, orthopédagogue, concierge, bénévole à la bibliothèque, parent accompagnateur, etc. Cependant, le gouvernement a prévu une clause grand-père. Ça signifie que les employés qui portaient déjà un voile peuvent continuer de le faire. Elles conservent ce droit. Mais pour les nouvelles personnes qui arrivent dans le monde de l'éducation ou celles qui changent d'emploi, la loi ne prévoit pas d'exception. Les femmes qui portent le voile doivent le retirer pour travailler. Ça a un impact très concret. Dans un seul centre de service scolaire, 12 femmes récemment embauchées ont perdu leur emploi d'éducatrice et de surveillante d'élèves. C'est parce qu'elles ont refusé d'enlever leur voile au travail. Seulement sur l'île de Montréal, au moins 500 personnes pourraient aussi perdre leur travail pour la même raison, selon le milieu scolaire. Le gouvernement se défend en disant que l'interdiction des signes religieux, c'est pour le bien des jeunes. Bernard Drinville, l'ancien ministre de l'Éducation à l'origine de cette loi, affirme que son objectif est de protéger les enfants contre toute forme de pression religieuse et à garantir un environnement scolaire véritablement sans religion. Dans l'équipe des As, on a remarqué que, dans tout ce débat, on n'entend que des adultes. Des politiciens, des femmes musulmanes, des syndicats, des directions d'école, des comités de parents, des personnes pour ou contre. Mais si l'objectif est de protéger les enfants, il serait important de leur demander leur avis, non? C'est ce que l'équipe des As veut faire aujourd'hui. Savoir ce que toi, tu penses de tout ça. Nous allons donc te poser quelques questions. Si tu vas à l'école publique, réponds le plus honnêtement possible. Si tu fais l'école à la maison, donne-nous plutôt ton avis dans les commentaires. Avant de commencer, rappelle-toi que ces questions sont posées dans le but de connaître ton expérience et ton ressenti, afin de voir si tout ça concorde avec le choix du gouvernement. Les questions ne doivent pas être interprétées comme une prise de position des As pour un camp ou pour un autre. À l'école, as-tu déjà côtoyé un adulte qui portait un signe religieux? Oui, un. Oui, plusieurs. Non. Si tu as répondu oui, quel était ce signe religieux? Un voile, hijab, une kippa, une croix, un turban, autre. Plusieurs personnes portant différents signes. Si tu as répondu un voile, hijab, comment te sens-tu par rapport à ça? Ça me rend inconfortable, ça ne me dérange pas. Ça me fait sentir bien, autre. OK. Toujours si tu as répondu un voile hijab, as-tu déjà senti que cette personne voulait t'influencer par sa religion, comme le craint le gouvernement? Oui? Non? Je ne sais pas. Ok. Si cette personne devait quitter ton école à cause de son voile, comment te sentirais-tu? Triste? Fâché? Content? Indifférent? Ok. Crois-tu qu'interdire les signes religieux à l'école est une bonne décision? Oui, et l'interdiction devrait être étendue aux employés de longue date. Oui, seulement pour les nouveaux employés. Non. Je ne sais pas. OK. À toi la parole. Que tu ailles à l'école publique ou privée, ou que tu fasses l'école à la maison, dis-nous ce que tu penses de tout ce débat dans les commentaires. Un rappel. Aux As, on discute dans le respect. Donne tes réponses sur le site lesasdelinfo.com. Pour ou contre la poste? Un texte de Caroline Bouffard paru le 16 mars 2026 dans les As de l'Info. Le 1er janvier, le Danemark a dit bye-bye aux lettres et aux facteurs. Le pays a aboli la poste. Fini la distribution de lettres. Désormais, seuls les colis sont livrés à domicile. Toutes les boîtes aux lettres ont même été retirées. Pourquoi? Avec l'arrivée d'Internet, la quantité de lettres a énormément diminué. Abolir la poste permet au gouvernement de faire des économies. Le Danemark est le premier pays occidental à prendre cette décision. Mais d'autres gouvernements y pensent. L'an dernier, le ministre responsable de Poste Canada, Joël Lightbound, a annoncé la fin de la livraison du courrier à domicile d'ici quelques années. Est-ce qu'on devrait abolir complètement la poste ici aussi? Regardons ensemble les pour et les contre la poste. Les pour. C'est chouette de recevoir du courrier. Oui, il y a les courriels, les textos, mais recevoir une carte de souhait, une lettre ou une carte postale à son nom, c'est tellement spécial. Et c'est un moyen de communiquer qui nous permet de prendre notre temps. Écrire la lettre, aller la poster, attendre qu'elle soit livrée, puis espérer une réponse. C'est un si beau rituel. C'est simple. Ce n'est pas tout le monde qui a accès à un ordinateur ou à Internet. Il y a aussi des gens qui ne sont pas à l'aise avec les nouvelles technologies, notamment chez les personnes âgées. La poste est un moyen simple et peu cher de communiquer. Au Canada, un timbre coûte 1,44 $. Les facteurs, une présence rassurante. Les facteurs marchent dans leur quartier ou leur village tous les jours. Ça leur permet de voir toutes sortes de choses. Ils se rendent compte si une personne seule tombe malade ou si une maison a été cambriolée. Pour certaines personnes âgées, le facteur est parfois la seule personne qui les visite. Leur passage quotidien peut être rassurant pour les plus vulnérables. Les contres. Ça coûte cher. Poste Canada est une société d'État, c'est-à-dire qu'elle appartient au gouvernement du Canada. Depuis les dernières années, elle a des difficultés financières. L'an dernier, le gouvernement du Canada lui a prêté plus de 1 milliard de dollars pour l'aider. L'argent du gouvernement, c'est l'argent des Canadiens et Canadiennes. La poste ne reviendra jamais aussi populaire qu'avant. C'est trop d'argent pour faire survivre ce service. Ça gaspille du papier. Toutes ces lettres, ces enveloppes, ces factures, c'est du papier gaspillé. Nos bacs de recyclage débordent. Tout ou presque peut se faire en ligne maintenant. Ça suffit. C'est lent. On peut maintenant communiquer en temps réel avec des gens partout sur la planète. C'est plus facile que jamais de garder contact avec nos amis et nos proches grâce à Internet. Pourquoi faudrait-il encore dépendre d'un système lent qui vient d'une autre époque? En bref, pour... C'est chouette de recevoir du courrier. C'est simple. Les facteurs sont une présence rassurante. Contre. Ça coûte cher. Ça gaspille du papier. C'est lent. Toi, es-tu pour ou contre la poste? La Sagrada Familia, une église unique au monde. Un texte de Caroline Bouffard, paru le 18 mars 2026 dans les As de l'Info. Après 144 ans de travaux, la plus haute tour de la Sagrada Familia, célèbre église espagnole située à Barcelone, est enfin terminée. Ouf, ça en a pris du temps, mais tu sais quoi? Le bâtiment n'est même pas encore complètement construit. Voici 5 faits étonnants sur la Sagrada Familia, un projet monumental unique au monde. Un chantier interminable. La construction de la célèbre église a débuté en 1882. Et après 144 ans, elle n'est toujours pas complétée. Pourquoi c'est si long? Pour plusieurs raisons. La première, le concept de l'architecte Antoni Gaudí était très compliqué. Un exemple, l'église compte 18 tours. Ensuite, depuis 1882, l'Espagne a connu des révolutions, les deux guerres mondiales, la pandémie. Tout cela a ralenti les travaux. L'église a aussi été endommagée par un incendie. Finalement, il y a l'argent. Cet immense chantier coûte une fortune. On parle de plus de 600 millions de dollars. Ce sont principalement les visites des touristes qui financent le projet. Un architecte génial, Antoni Gaudí. L'architecte Antoni Gaudí n'avait que 31 ans quand il a hérité du projet de construction. Il y a mis tout son cœur, et y a consacré 43 ans. Il a tout imaginé et a planifié chaque détail, la structure, les décors, les ambiances, les vitraux, les mosaïques. Son atelier était dans l'église, et il y aurait même dormi à la fin de sa vie. Quand Gaudí est mort à 73 ans, en 1926, il y a 100 ans, une seule des 18 tours de la Sagrada Familia s'élevait dans le ciel. Il savait que la construction ne serait pas terminée de son vivant et a été enterré sous l'église. L'inspiration, la nature. À travers sa carrière, Gaudí s'est inspiré des arbres, des vagues, des coquillages, bref, de la nature. Et comme il n'y a pas de ligne droite dans la nature, il y en a très peu dans la Sagrada Familia et dans ses autres bâtiments. Leur ligne courbe, surprenante, c'est ce qui les rend si uniques. L'intérieur de l'église est comme une forêt avec ses colonnes arbres. Et comme dans une forêt, la lumière qui entre dans l'église donne l'impression de traverser un feuillage. Gaudí voulait que la Sagrada Familia soit le temple de la lumière harmonieuse. Regarde comme les vitraux sont magnifiques. 172,5 mètres. C'est la hauteur de la tour de Jésus-Christ. Sa construction a été complétée le 20 février. Elle a fait de la Sagrada Familia la plus haute église au monde. C'est aussi le plus haut immeuble de toute la ville de Barcelone. Pour te donner une idée, elle dépasse la tour du Stade olympique de Montréal, qui fait 165 mètres. Objectif 2034. C'est peut-être en 2034 que la Sagrada Familia sera enfin terminée. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Beaucoup de travail de décoration et de sculpture, entre autres. Mais les plus gros travaux à venir sont la construction de l'immense escalier et de la place publique devant l'entrée principale. Le hic, c'est que pour bâtir tout ça, il faut démolir plusieurs immeubles et déplacer 1000 familles et commerces. Et ceux-ci ne sont pas d'accord. La célèbre église risque donc de faire parler d'elle encore longtemps. Toi, si tu devais consacrer ta vie à construire ou créer quelque chose, ce serait quoi? C'est quoi le détroit d'Ormuz? Un texte de Camille Lopez paru le 18 mars 2026 dans les As de l'Info. Depuis le début de la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran, on parle beaucoup du détroit d'Ormuz. Mais qu'est-ce que c'est? Et pourquoi est-ce que ça a un impact sur le portefeuille de tes parents? Je t'explique. La route du pétrole. Le détroit d'Ormuz, c'est une route maritime du Moyen-Orient où circulent des gros bateaux. C'est un passage très étroit qui relie deux grandes étendues entre elles, le golfe Persique et l'océan Indien. Et il s'agit du passage le plus important au monde pour le transport du pétrole. Normalement, 3000 navires y circulent chaque mois. Trois pays bordent le détroit d'Ormuz. L'Iran, Oman et les Émirats arabes unis. En ce moment, le détroit d'Ormuz est contrôlé par l'Iran. Pas le droit de passer. Le 28 février, les États-Unis et Israël ont bombardé l'Iran. Et depuis, c'est la guerre au Moyen-Orient. L'Iran a décidé de punir les deux pays et leurs alliés en empêchant presque tous les bateaux de circuler dans le détroit d'Ormuz. Résultat, plus de 1000 bateaux sont coincés des deux côtés du passage. C'est parce que l'Iran menace d'attaquer les bateaux qui y circuleraient sans autorisation. Une vingtaine de navires ont d'ailleurs été frappés. Selon l'agence France-Presse, 8 personnes ont été tuées ou blessées. Mais il y a une exception. Les bateaux qui transportent du pétrole pour l'Iran et ses alliés, comme l'Inde et le Pakistan, peuvent naviguer. Pourquoi cette guerre? Pour mieux comprendre cette guerre, voici une entrevue avec un spécialiste du Moyen-Orient. Partout sur la planète, on ne parle que de ça depuis les derniers jours. Samedi, les États-Unis et Israël ont bombardé l'Iran. Le dirigeant du pays, qu'on appelle le guide suprême, a été tué. D'autres personnes importantes, mais aussi des civils, ont perdu la vie. L'Iran a répliqué en bombardant les pays voisins. Pour y voir plus clair, on a parlé avec Miloud Chanoufi, professeur au Collège militaire royal du Canada et spécialiste du Moyen-Orient. Pas de bateau, pas de pétrole. Conséquence. Le pétrole qui doit normalement être livré ici et ailleurs dans le monde est coincé. Et beaucoup de pays ont peur d'en manquer, alors le prix du pétrole qui reste disponible augmente. Ça veut dire que mettre de l'essence dans son auto coûte plus cher qu'avant et que le prix risque de continuer de grimper tant que la guerre n'est pas terminée. Pas juste l'essence. Le blocage du détroit d'Ormuz retarde aussi la livraison de nourriture et d'engrais dans beaucoup de pays. Ça inquiète l'ONU, qui craint que plus de 45 millions de gens manquent de nourriture. Des solutions? Les gouvernements de partout dans le monde se creusent la tête. Ils veulent vraiment rouvrir le détroit d'Ormuz. Voici quelques solutions qui ont été envisagées. L'armée. Le président des États-Unis, Donald Trump, a demandé à ses alliés d'envoyer des soldats pour ouvrir le détroit d'Ormuz par la force, mais la majorité des pays ont refusé. Le droit. Mardi, la ministre canadienne des Affaires étrangères, Anita Anand, a dit que la priorité du Canada est de débloquer le détroit d'Ormuz, mais elle veut s'y prendre en faisant valoir que les pays ont le droit d'y naviguer. Faire un détour. Le pétrole pourrait être acheminé par des oléoducs, mais ceux-ci ne peuvent pas transporter d'aussi grosses quantités, et certains sont situés dans des pays alliés de l'Iran. Puiser dans les réserves. Plusieurs pays dans le monde possèdent des réserves de pétrole qu'ils mettent sur le marché pour tenter de réduire les prix qui grimpent. Et toi, que penses-tu de cette situation? Étais-tu au courant que tous ces bateaux étaient coincés au Moyen-Orient? Arco, un film tout en couleurs. Un texte de Marie-Lise Beaudoin, paru le 17 février 2026 dans les As de l'Info. On a appris récemment que le film Arco était en compétition pour l'Oscar du meilleur film d'animation. Avant cela, il a été présenté au prestigieux Festival de Cannes et a charmé les cinéphiles du monde. Waouh! Le film est maintenant à l'affiche dans les cinémas du Canada. Arco est-il à la hauteur de sa réputation? Lis ma critique pour le découvrir. Le savais-tu? Le réalisateur d'Arco est français et s'appelle Hugo Bienvenu. Arco, c'est son tout premier long métrage. C'est aussi lui qui a écrit l'histoire. Impressionnant, non? De quoi ça parle? Arco raconte l'histoire d'un jeune garçon qui vit en 2932. Dans ce futur, les humains ont développé une technologie qui leur permet de voyager dans le temps. Comme il est passionné de dinosaures, Arco rêve d'en voir en vrai. Il décide donc de s'envoler, sans le dire à ses parents, vers le passé, alors que tout le monde dort. Mais une erreur se produit. Au lieu d'atterrir à l'époque des dinosaures, Arco se retrouve en 2075. C'est là qu'il rencontre Iris, une fille de 10 ans qui vit avec son petit frère et un robot qui s'occupe d'eux lorsque leurs parents sont absents. Tous ensemble, ils vont tenter de ramener Arco chez lui. Vont-ils réussir malgré les défis? Ce voyage dans le temps aura-t-il des conséquences? À toi de le découvrir. Retour dans le passé du futur. Comment imagines-tu la vie dans 50 ans? Vois-tu des robots? Des voitures volantes? Si tu as envie de voir au-delà de ton imagination, Arco est un film pour toi. Les décors, les objets, les paysages, tout ça m'a fait réellement voyager dans le temps. Voici deux de mes éléments futuristes coup de cœur. Les bulles protectrices. Dans le film, les bâtiments sont dotés de bulles protectrices qui s'activent lorsque la météo devient dangereuse. Elles permettent aux habitants de rester en sécurité malgré les changements climatiques. Ingénieux, tu ne trouves pas? Les robots. As-tu déjà rêvé qu'un robot te fasse à manger? Te lise une histoire avant de dormir ou même qu'il range ta chambre? Eh bien, en 2075, c'est possible. Chaque famille a son robot domestique et plusieurs travaillent aussi pour la ville, par exemple dans la police ou les magasins. Ce sont même eux qui réparent les dégâts causés par les tempêtes. Si tu pouvais avoir un super pouvoir parmi ceux-ci, lequel choisirais-tu? Voler? Voyager dans le temps? Te téléporter? Parler aux animaux? Mes émotions aux couleurs de l'arc-en-ciel. Je dois t'avouer que ce dessin animé m'en a fait voir de toutes les couleurs, pas seulement visuellement. J'ai rigolé, été ému, touché. Rose Amitié. L'amitié est au cœur du film. Ce que j'ai trouvé particulièrement touchant, c'est que, même si Iris aimerait que Arco reste dans sa ville, elle fait tout pour l'aider à rentrer chez lui parce que c'est ce qu'il souhaite. Je trouve que c'est un bel exemple d'amitié qui montre que parfois, il faut mettre les envies de la personne qu'on aime avant les nôtres. Bleu Tristesse. Le film n'est pas 100% rose. Je ne peux pas trop t'en dire, mais prépare tes mouchoirs. Certaines scènes sont très touchantes et j'ai eu la larme à l'œil plus d'une fois. Vert Espoir. Comme le film nous plonge dans un futur qui n'est pas si loin de nous, il est facile de s'y projeter. On réalise que l'humain s'est adapté malgré les défis. Ça m'a donné de l'espoir et ça me permet maintenant d'imaginer autre chose quand je pense au futur. Psst, psst. En espagnol, arc-en-ciel se dit arcoiris. C'est justement le mélange des noms Arco et Iris. Coïncidence? Je ne pense pas. Et toi, si tu pouvais voyager dans le passé, quelle époque aimerais-tu visiter? C'était Gilbert. À une prochaine lecture.
Ici Terrence. Merci à Gilbert, Christiane, Louise, Mathieu et Carlo. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de On lit pour toi!